BFM Radio.
Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue dans notre émission spéciale entièrement consacrée au dossier Epstein et à ses ramifications françaises. 3,5 millions de fichiers qui inondent la planète et qui n'en finissent plus de provoquer des ondes de choc, des démissions, des ouvertures d'enquêtes dans plusieurs pays. La France est touchée car depuis hier soir, le parquet de Paris a lancé une grande enquête pénale qui entend reprendre tous les éléments depuis 2019. Le parquet qui se saisit de 3 affaires déjà évoquées ici, qui nomme des magistrats référents qui vont éplucher ces fichiers à la recherche d'éventuels Français impliqués. Le dossier Epstein, ou plutôt les dossiers Epstein et ses tentacules françaises. Avant d'aborder ce volet français, direction d'abord l'archipel des îles Vierges, la plaque tournante de Jeffrey Epstein, de là où partait et atterrissait son jet privé, le Lolita Express. Antoine Lard est l'envoyé spécial de BFM TV là-bas.
Je me trouve ici à l'est de Saint-Thomas. On est à 10 minutes en bateau de l'ancienne île privée de Jeffrey Epstein. Et cette marina derrière moi a longtemps été l'une des plaques tournantes de son réseau pédocriminel. Sur ses pontons, Epstein possédait une douzaine de bateaux. Il servait notamment à transporter des jeunes filles vers son île. Pour agir en toute discrétion, le financier était devenu l'un des propriétaires du port. Il pouvait alors naviguer la nuit, à l'abri des regards, en dehors des horaires officiels. Autre rouage essentiel des crimes de Jeffrey Epstein, l'aéroport de Saint-Thomas, et plus précisément ces pistes que vous apercevez derrière moi, qui sont réservées aux avions privés. C'est ici que Epstein faisait atterrir son jet, un avion au cœur du scandale qu'il avait rebaptisé le Lolita Express. Des centaines de victimes mineures ont transité par ici. Jamais leur passeport n'a été contrôlé. Epstein avait acheté le silence des autorités locales. Une corruption qui lui a garanti une très longue impunité. Epstein avait aussi ses habitudes dans cette société de transport par hélicoptère. Nous cherchons à rencontrer l'un des pilotes qu'il a bien connu, sans succès.
Je crois qu'il n'aime pas parler de ça. Beaucoup de gens viennent poser des questions, mais il ne sait rien.
Comme lui, de nombreux habitants veulent aujourd'hui oublier cette affaire qui n'en finit plus de ternir l'image de carte postale de leur archipel.
Restez avec nous, on revient dans un très court instant. Le parquet de Paris va procéder à une relecture, une réanalyse intégrale du dossier d'instruction de Jean-Luc Brunel. On va décortiquer tout ça avec tous nos invités, tous nos experts en plateau. A tout de suite.
BFM Radio.
Le dossier Epstein est l'onde de choc internationale avec la justice française, je vous le disais, qui se met en ordre de marche. Car le parquet se saisit de 3 affaires, nomme des magistrats référents pour éplucher les dossiers et va enquêter, relire tout le dossier de Jean-Luc Brunel. J'accueille sur ce plateau avec mon complice Laurent Valdiguier cette semaine, Stéphane Bureau, consultant États-Unis de BFM TV, Christian Flech, ex-directeur de l'APJ de Paris, Mathias Chiche-Portchiche, avocat de Jean-Luc Brunel,
bonjour.
Nathalie Buquet, avocate de l'association Innocence en danger.
Bonjour Pauline.
Et Juliette, ancien mannequin, vous nous raconterez comment vous êtes retrouvée à New York dans les griffes de Jeffrey Epstein et comment surtout vous avez réussi à vous sauver. Merci à tous d'être avec nous. Il faut commencer par le commencement, essayer de déplier la feuille, même si les pages, les noms, les vidéos, les photos s'accumulent. Stéphane Bureau, combien de pays sont touchés? Quelles personnalités et quels sont les derniers dominos qui sont tombés?
Alors, il y aura probablement d'autres dominos à tomber. Tout près de chez nous, en Angleterre, c'est autour du Premier ministre, Keir Starmer, que les affaires sont très chaudes. En fait, son directeur de cabinet, son directeur des communications, et hier, vendredi, le premier fonctionnaire du pays, le secrétaire du cabinet, a aussi démissionné. Tout ça parce qu'ils ont probablement encore des liens, avec celui qui, jusqu'en septembre, était l'ambassadeur de M. Starmer à Washington, Peter Mandelson, qui était très proche de M. Epstein et qui l'a été jusqu'à la toute dernière minute, contrairement à ce qu'il disait. En Norvège, c'est la princesse qui a vocation à devenir peut-être reine, qui disait d'ailleurs, quand tu es à À Paris, pardon, Jeffrey, c'est idéal pour se trouver une maîtresse, mais c'est pas l'endroit idéal pour se trouver une femme. Il faut venir en Scandinavie pour trouver une femme. C'était des conseils amicaux qui lui étaient prodigués. C'est l'ancien premier ministre au début des années 90 de Norvège, qui était aussi secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui cette semaine a vu son immunité diplomatique levée. Il y a eu des perquisitions chez lui. On parle de corruption. Une enquête s'amorce. Alors là, il y a une enquête. En Grande-Bretagne, rien. Paris, on aura l'occasion d'y revenir. Et aux États-Unis, dans le personnel politique, peu de gens qui sont pour l'instant tentés de démissionner, parce qu'il y a le secrétaire au commerce du président Trump qui est un peu embarrassé. Il avait dit, M. Lotnick, ne pas avoir eu de relation après 2008 avec Jeffrey Epstein. Or, il s'est rendu à l'île de Jeffrey Epstein. Silence radio, il donne peu d'entretiens en ce moment, alors qu'en général, il est très bavard. Mais c'est des personnalités lourdes qui tombent, qui démissionnent. La patronne du service juridique d'une des plus grandes banques américaines, Goldman Sachs, qui, elle, a choisi d'annoncer sa démission pour juin, qui était jusqu'à la toute dernière minute en contact avec Jeffrey Epstein, qui a reçu des cadeaux très conséquents, en parfaite contravention d'ailleurs avec les politiques de la banque pour laquelle elle travaillait. Ancienne avocate à la Maison-Blanche dans l'administration de Barack Obama, l'ancien directeur du musée Whitney, ce serait l'équivalent peut-être du Palais de Tokyo ici, du musée d'art moderne, donc une personnalité importante, qui enseignait jusqu'à récemment à renoncer à son job d'enseignant. Et puis le patron d'un des plus grands bureaux d'avocats aux États-Unis, Paul Weiss, en fait c'est le nom du bureau, lui s'appelle Brad Karp, qui a démissionné parce qu'il est jusque-là en relation avec Epstein jusqu'à la toute dernière minute, et en particulier pour essayer de désembourber un milliardaire, un monsieur Black, fondateur d'un fonds d'investissement gigantissime, Apollo, qui avait des relations extra-conjugales, une jeune maîtresse russe particulièrement, et qui négocie, s'assure que les choses soient bien lubrifiées, pardonnez ici le vilain jeu de mots, mais que tout se passe bien, c'est monsieur Epstein, comme il l'a d'ailleurs fait pour Bill Gates. Okay. Qui n'est pas le saint qu'on imagine.
Donc on l'a compris, la déflagration est mondiale.
Mais c'est long.
Non,
mais
c'est tentaculaire.
On y arrive.
C'est
tentaculaire.
Le prince Edward.
Et le prince Andrew, qui n'est plus prince du reste et qui n'habite plus non plus à Windsor, qui est invité par le premier ministre, et ça on n'a jamais vu ça, à aller témoigner au Congrès comme on le lui demande depuis, de manière pressante, depuis de nombreux mois, et on en parlait Laurent et moi, s'il fallait qu'il débarque aux États-Unis. Sa sécurité au sens de dormir à l'hôtel plutôt qu'à la prison n'est pas du tout en prison, n'est pas du tout assurée. Je pense que les autorités américaines en ce moment seraient tentées d'aller lui mettre la main au collet. Donc, il ne bougera probablement pas, sinon que la pression est archi forte.
Archi forte. Déflagration mondiale, on l'a dit. Et en France, Laurent, il y a ce communiqué du parquet de Paris, alors, qui sonne comme un coup de tonnerre. Ça ressemble en fait, c'est long. C'est prolixe, c'est dense, et ça ressemble à quoi? À une fusée à plusieurs étages, en fait.
Oui, c'est vrai que ça fait 15 jours que le parquet de Paris, alors le PNF, le parquet national financier, a dégainé le premier, hein, parce que c'est vrai que l'affaire Lang, elle était un peu carrée, hein, il suffisait de regarder dans les files, il y avait le début, le commencement et le milieu sur cette histoire de fraude fiscale.
Bon, lui, il dit qu'il est blanc comme neige dans la tribune aujourd'hui.
Depuis 15 jours, le parquet de Paris est sollicité par 3 plaintes. D'abord, le ministère des Affaires étrangères sur ce diplomate, obligé de quitter les États-Unis précipitamment par consultation via le Canada
de
un grand ami d'Epstein, ce chef d'orchestre, hein, Chasselin, qui a des mails assez équivoques avec Epstein, pareil, une ancienne soprano a déposé plainte contre lui, et puis troisième volet, celui qu'on a découvert récemment, le fameux Daniel Siad, qui était le rabatteur de Brunel et d'Epstein, le parquet était saisi. Alors là, le communiqué d'hier soir, il va bien au-delà de ça. Parce que le parquet de Paris annonce ni plus ni moins qu'un examen complet, il ne précise pas le nombre de magistrats qu'il va falloir pour ça, un examen complet des 3 millions de files, 3 millions de documents, dans le but de savoir s'il y a là-dedans des infractions pénales applicables à la loi française. Alors ça, c'est déjà énormément
soi. Est-ce que vous avez déjà vu ça, une relecture aussi du dossier de 2019
et dans le même temps, ça c'est l'autre fusée.
C'est le troisième étage.
Le troisième étage, un réexamen. Alors là, Maître Gilles Portige, qui est là, qui était l'avocat de Brunel, mesure l'ampleur de tout ça, un réexamen du dossier Brunel. Alors un réexamen du dossier Brunel, ça veut dire que le parquet est susceptible de voir un peu ce qu'il y a dans ces fameux scellés.
Ce qui est extrêmement surprenant, et vous avez raison, c'est à la mesure des enjeux, c'est que le parquet est saisi depuis 2019 de ces faits. Que la perquisition...
Par cette association, absolument, pour rendre leur hommage, Innocence en danger, qui a alerté en 2019.
Absolument. La perquisition qui a eu lieu chez Jeffrey Epstein, elle a eu lieu en novembre 2023. Donc, on est dans une situation où il y a quelque chose d'ahurissant à se dire que le parquet est saisi depuis autant de temps et que, au fond, il y aurait une sorte d'aveu de culpabilité à considérer que ce qui aurait dû être fait hier et on s'est battu pendant un an et demi avec mes confrères Marianne Abgral et Christophe Ingrin pour être proactif dans le cadre de la défense de Jean-Luc Brunel, pour solliciter des auditions, pour solliciter la communication de la procédure américaine. Et on a constaté une forme de passivité, une forme, je dirais, d'inconsistance à faire en sorte de prendre la mesure des enjeux. On parlait de Daniel Sciad à l'instant. Mmh. Jean-Luc Brunel, dans l'un de ses interrogatoires, il désigne Daniel Sciad comme le rabatteur d'Epstein.
Donc Daniel Sciad, il est déjà identifié dès 2019.
Mais il
et
est.
Et vous, aujourd'hui, vous pointez quoi des insuffisances, des défaillances, disons le mot.
Mais c'est que ce que je pointe, c'est une série de dysfonctionnements qui a conduit à se concentrer sur Jean-Luc Brunel parce que c'était plus confortable de se dire qu'au fond, l'affaire Epstein en France, c'était l'affaire Brunel. Et que, en dépit de ce qu'on a tenté de faire, c'est-à-dire démontrer qu'indépendamment de Jean-Luc Brunel, il y avait tout un tas de personnes qui étaient susceptibles d'être mis en cause, parce que je vous le rappelle, et c'est essentiel, Jean-Luc Brunel n'a jamais été mis en examen sur les faits qui sont ceux que l'on lui reproche médiatiquement, c'est-à-dire le fait d'avoir rabattu des femmes. Les magistrats, après des dizaines d'heures d'interrogatoire, l'exploitation d'un certain nombre de saisies, après des auditions de témoins, ont considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour le mettre en examen.
Il y a une dizaine de femmes qui l'accusent de viol, maître.
Oui, mais si vous voulez, lorsque l'on parle de l'affaire Epstein et lorsque l'on le présente comme un rabatteur... D'un point de vue judiciaire, il n'y avait absolument
aucune charge de ce point de vue. Non, mais cette proximité, cette amitié, ou ce, je ne sais pas comment
ça, il ne l'a jamais contesté.
D'accord.
Il ne l'a jamais contesté.
Ce que vous dites, c'est que le rabatteur français d'Epstein, c'était Daniel Sciad, désigné comme tel dans les procès-verbaux et dans l'enquête de l'époque, et pourtant jamais entendu dans l'enquête Brunel.
Moi, je suis avocat, je ne suis pas procureur. Donc, si vous voulez, ce n'est pas à moi de pointer l'index et l'accusation sur tel ou tel. Ce que je sais, c'est que je ne comprends pas que cette affaire qui... du point de vue du suicide de Jean-Luc Brunel, s'achève en février 2022. L'ordonnance de non-lieu date d'août 2023. Il se passe plus d'un an. Pourquoi cette année n'a pas été mise à profit pour aller éventuellement chercher les complices d'Epstein si jamais on en avait la volonté ?
Stéphane.
Alors, un pas de côté. Par-delà les ratés ou la cécité choisie de la justice en France ou aux États-Unis, il faut rappeler que dans l'affaire Epstein, il y a très longtemps, il y a des lanceurs d'alerte qui disent « on a fermé le robinet sur ma parole ». C'est-à-dire qu'il y a une journaliste, par exemple, Vicky Ward, qui écrivait pour le Vanity Fair, qui dit en 2003 « j'avais plein de documents qui étaient extrêmement compromettants et on m'a interdit de publier ».
Donc il y a eu des transactions, des arrangements.
Où on a simplement dit « il n'est pas question que le Vanity Fair publie ton papier ». Et elle, donc, plus tard le dira, le confirmera, et c'est pas la seule. Il y a des témoignages ici aussi en France de gens qui disent j'ai témoigné et mon émission n'a pas été diffusée. Donc il y a de l'information qui circulait. Il y a un choix à un moment donné qui en amont de tout s'est fait. Et cette journaliste est depuis aussi continuellement sur l'affaire Epstein et est revenue plusieurs fois.
Juliette, on va revenir sur votre histoire dans quelques instants, mais vous, ce qui est important dans ce qu'on explique en ce moment, c'est qu'en 2019, vous avez été entendu.
Effectivement.
Vous n'avez pas porté plainte, vous estimez qu'il n'y a pas de préjudice, mais on y reviendra. Mais vous êtes dans l'histoire, si je puis dire, et vous donnez le nom de Daniel Sciad.
Effectivement, en 2019, quand j'entends dans les médias qu'il y avait justement cette affaire qui sortait, donc c'est là où j'ai fait le rapprochement avec mon histoire, j'ai mis un petit peu de temps pour me poser la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, parce qu'il y avait clairement pour moi un danger, je me sentais aussi... pas en sécurité, en fait, de le faire. Et j'ai porté mon courage à deux mains et je me suis dit, il faut le faire parce que peut-être que ça va aider d'autres jeunes femmes. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer la police judiciaire en 2019 pour pouvoir apporter mon témoignage. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose que je sors là depuis une semaine. C'est une affaire. Enfin, en tout cas, c'est des informations que j'ai déjà données auprès de la PJ.
Que vous portez depuis 2019. Moi, j'ai une question pour vous, Maître Buquet. C'est une satisfaction quand même, ce communiqué du parquet, parce que ça fait 8 jours qu'on est à feu roulant sur les plateaux pour demander l'ouverture d'une enquête. À minima, ça bouge.
À minima, ça bouge, effectivement. Alors après, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, parce qu'ils se saisissent hein, des trois affaires hein, qui sont suite au signalement, aux plaintes, etc. Là, en revanche, où vraiment on a une information à laquelle on ne s'attendait pas forcément, mais que je trouve assez courageuse, c'est effectivement d'affirmer qu'ils vont procéder à un réexamen complet de cette affaire, et je pense qu'ils ont raison de le faire, parce qu'on pourrait en exhumer quand même un certain nombre d'éléments pour pouvoir effectivement élargir sur les investigations. Je pense qu'en réexploitant un certain nombre d'éléments, on peut saisir plus large et avoir une ouverture d'information judiciaire qu'on n'a pas encore. Attention, ça sera peut-être là la vraie avancée quand on aura une information judiciaire qui sera ouverte sur quelque chose de très large, notamment pour établir est-ce qu'on a bien eu une exploitation sexuelle de mineurs en France avec quelque chose d'organisé. Et c'est là, je pense, aussi l'avantage d'avoir une saisine du parquet national financier, c'est d'étudier aussi les flux financiers dans cette affaire, parce qu'on sait que quand il y a un réseau, bah, on a des flux transnationaux, etc. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et toute la question, c'est de savoir aujourd'hui est-ce que notre justice va avoir les moyens d'analyser tout ça.
Christian Flech, la PJ est mise aussi à contribution aujourd'hui parce que PNF, police judiciaire, parquet de Paris, c'est une fusée, c'est assez inédit quand même de voir ça, votre regard.
Non, il y a toujours eu des capacités de collaboration.
Non, des relectures, je veux dire, des relectures de dossiers, moi c'est la première fois.
Mais je pense que c'est très intéressant aussi, c'est la communication de tous les fichiers qu'on a qu'on n'avait pas au moment où cette affaire a eu lieu. Et donc la relecture avec l'apport de ces millions de fiches, ça va donner des ouvertures possibles sur d'autres infractions, effectivement.
Lesquelles ?
Il y aura aussi, il peut y avoir la traite des êtres humains, par exemple, des mouvements financiers, de la corruption, tout ça, tout est possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que les enquêtes à l'étranger vont apporter. Vous avez parlé de la Norvège, vous avez parlé de l'Angleterre. Il peut y avoir des collaborations, des coopérations judiciaires entre tous ces pays pour permettre que les enquêtes de 2019-2023 aboutissent à des ouvertures différentes avec des victimes différentes. Et il faut aussi inciter des jeunes femmes comme vous à déposer plainte parce que ça peut aussi donner d'autres éléments.
En 2019, il y avait même eu un appel à témoins. Je parle sous votre contrôle. Est-ce que c'est une bonne idée de refaire un appel à témoins aujourd'hui ou est-ce que...
Je pense que ce type d'émission peut être un vrai appel à témoins. En tout cas, il faut inciter les gens à déposer plainte.
Et puis, il y a également un appel du gouvernement, Emmanuel Macron, qui, dans un premier temps, avait dit que c'était à la justice américaine d'enquêter. Bon, ça, on apprécie plus ou moins. Là, je vois Maître Buquet qui fait comme ça de la tête, ça veut dire qu'elle n'est pas très d'accord. Et puis, ensuite, Maud Bréjon qui dit qu'il va falloir que toutes les femmes, un peu en écho à ce que vous faites, Juliette, aient le courage de venir témoigner et trouvent cette force-là. Donc, effectivement, tout le monde est concerné. On va y revenir dans un instant. Vous allez rester avec nous. On revient sur ce volet pénal français qui connaît depuis hier soir, Laurent, avec ce communiqué du parquet, une accélération d'ampleur. Restez avec nous.
BFM Radio.
Le dossier Epstein et ses tentacules françaises. Avec nous en plateau, Juliette, vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé. Vous avez été mise en contact en France par un homme. Vous avez pris un vol, vous êtes arrivé aux États-Unis. Qui est cet homme d'abord et en quelle année sommes-nous? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout ça s'est déroulé?
Donc c'était en 2004, j'avais 21 ans à ce moment-là, donc j'étais mannequin professionnel. Et je croise cet homme-là dans la rue qui me demande donc si je suis mannequin. Et il se présente comme un scout. Faut savoir que voilà, les recruteurs...
Scout, on dit?
Voilà, c'est des recruteurs en
donc,
fait, chasseurs de mannequins.
C'était en France?
C'était en France sur les Champs-Élysées. Et donc, il me demande voilà, de regarder mon book rapidement. Et il me parle justement des opportunités à New York pour savoir si ça m'intéressait ou pas.
Il se présente, il donne son identité?
Il donne son identité, Daniel Siad, il me donne ses coordonnées. Il me propose de le rappeler, donc je me méfie. Puisqu'à cette époque-là, j'étais en agence. Donc, j'appelle quand même à ce moment-là mon agence et je demande s'ils connaissent cette personne-là. Donc, si effectivement, il est bien un recruteur, c'est normal qu'ils le connaissent. Donc, à ce moment-là, ils me disent oui, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. C'est comme ça que je prends le billet d'avion qui m'est envoyé.
Un vol de ligne.
C'est un vol classique, voilà, Paris-New York. Et on me donne des instructions. Donc, c'est Daniel qui me donne toutes les instructions. Donc, déjà, quand tu passes l'aéroport, dis bien que tu es là-bas pour du tourisme. OK. On me donne une adresse. Donc, voilà, l'appartement de mannequin, du coup, qu'il y avait à New York. Et je me retrouve là-bas le soir même avec une jeune fille qui était dans l'appartement qui m'attendait pour me donner les clés. Jusque-là, pour moi, tout est tout à fait normal. Je vois pas de problème. Et on me donne une adresse. Donc, c'est Daniel qui me le donne à distance pour le lendemain. Donc, le 457 Madison Avenue.
Qui est l'appartement de Jeffrey Epstein. Exactement. Mais vous ne le savez pas en son nom.
Pas du tout. Non, je ne savais pas qui j'allais rencontrer, en tout cas.
Alors, et
donc, le lendemain, j'y vais et je me retrouve dans cet grand immeuble. Il y avait plein de monde, voilà, à l'intérieur. Et donc, c'est un homme, voilà, qui est assez grand, avec un costume gris, qui vient et qui me dit, voilà, Juliette, j'ai pas le temps pour toi aujourd'hui. Par contre, est-ce que tu peux me donner ton passeport? Donc, je lui donne en me disant, tiens, il fait peut-être des démarches par rapport à cette mise en contact. Il me donne $120 et il me dit, voilà, si t'as besoin, j'ai ma limousine en bas et tu peux aller faire un tour. Donc, je vais acheter un téléphone puisque là-bas, ça ne passait pas à cette époque-là. Et donc, voilà, je raconte tout à ma famille et j'y retourne le lendemain. Mmh. Parce que forcément, à ce moment-là, on l'a pardonné. Le passeport, c'était juste, il me l'a pris et je l'ai pas revu. Le lendemain, j'y retourne. Il m'accueille et il commence par faire un petit tour de ses cuisines. Voilà, si t'as besoin de manger, il y a le cuisinier qui est là, il peut te faire, ok, d'accord. Après, il me fait monter dans les étages par un ascenseur. Et là, je me retrouve toute seule avec lui. Il me fait traverser une salle de musculation. Dans les détails, je me remarque qu'il y a des photos de parties intimes de femmes placardées surtout autour de la salle de musculation.
Comme un décor.
Des photos, en fait, de poitrine, de parties, etc. Et donc, il m'emmène dans un couloir avec des chambres et il va dans la chambre du fond, il s'installe, enfin, il se met assis sur le lit et je m'arrête au pas de la porte et je le regarde et je lui dis, je vous préviens, je ne ferai rien. Voilà, déjà, je me dis au cas où, s'il y a quoi que ce soit, le cadre est posé. Et après, il me dit, non, c'est bon, tu peux venir. J'ai juste besoin de savoir si ton corps est prêt pour pouvoir faire les mises en contact avec les agences. Et il me demande de me dénuder pour ça. Donc, ce que je fais. Faut savoir aussi que en tant que mannequin, j'y suis depuis que j'ai 16 ans, d'être en plus en tant que même mineur des fois, et d'avoir des personnes qui nous demandent de nous dénuder. Malheureusement, c'est classique parce que c'est du mannequinat et c'est comme ça. Et des fois, il faut mettre des tenues, il faut se changer. Okay. Des fois, on n'a pas le temps. Des fois, c'est pour des shootings. Surtout que des fois, il y a même des jeux de photographes qui essayent à chaque fois de dénuder un peu plus les jeunes filles pour savoir jusqu'à où elles vont. Mm-hmm. Ça peut aussi, évidemment, c'est là où on peut y avoir des dérapages. Et donc, en tout cas, à ce moment-là, pas d'alerte plus que ça, même si je reste en vigilance. Je me dénude en gardant évidemment mes sous-vêtements. Et c'est là où il me dit non, mais le sous-vêtement aussi.
Le soutien-gorge.
Le soutien-gorge, oui, pardon. Et donc, je l'enlève, mais toujours en cachant, etc. Et il me regarde, il me fait le tour, et il commence à me toucher. Il me dit, ça va pas. Donc, manifestement, avec mes 12 kilos de moins qu'aujourd'hui, j'étais pas encore assez maigre à ses yeux.
Et c'est ce qui va vous sauver.
Oui, effectivement, parce que là, il me dit, bon, voilà, j'estime à 3 mois, comme par hasard, la durée du visa, la durée qui va te permettre de te remettre en forme. Je peux te mettre en contact avec mes agences, mes salles de gym. Et si tu veux, je peux te proposer du travail, si tu as besoin d'argent d'ici là. Je suis OK, d'accord. Alors, c'est quoi ce que vous me proposez? Donc, c'était hôtesse de l'air pour des compagnies privées aériennes et accompagnatrice. Bon, voilà, je commence à sentir qu'il y a un loup. Et je me dis, il faut que je parte là, il faut surtout que je récupère mon passeport, parce que je ne l'avais plus.
Vous saviez que le passeport, c'était vraiment le point.
Ouais.
Il fallait votre passeport pour...
Ouais. Ah bah oui, je savais qu'il y avait un sujet là-dessus, donc il fallait que je le récupère. Et du coup, je fais comme si j'étais OK, super, je vous rappelle demain pour ça. Par contre, je vous préviens, je partirai pas sans mon passeport. Et c'est là, il me dit OK. Donc il faut savoir que le moment où on commence à sortir de la chambre, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qui est cet homme, j'ai la peur au ventre, je tremble. Et je me dis là, il faut que j'essaye au moins de récupérer ça. Il m'emmène dans un bureau, donc c'est le bureau en plus que j'ai vu récemment là sur les images. Et il ouvre son tiroir et il sort une pile d'une bonne vingtaine de passeports. Et il est là en train de regarder rapidement. Il trouve finalement rapidement le mien et puis il me le rend sans opposition. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai 21 ans. 21 ans, c'est la majorité américaine. Je paraissais plus jeune que mon âge. Faut savoir que j'ai toujours et plus jeune, et particulièrement à ce moment-là, je me demande aussi si c'est peut-être ce qui m'a sauvée. Peut-être qu'avec le recul, il s'est dit, bon, je pensais qu'elle était plus jeune, ça m'aurait intéressé, finalement, 21 ans, bon bof. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas opposé aussi. Donc, de là, je récupère mon passeport, et je sors, et c'est là où je trouve une astuce pour récupérer mes affaires et de sortir de ça.
Bon, ce témoignage est très, très saisissant. Enfin, nous, c'est la deuxième fois que vous le racontez, mais nous, à chaque fois, on est saisi. Comment est-ce qu'il vous parle? Le mode opératoire, on a compris.
Oui.
Il vous touche.
Oui.
Il vous dit des choses.
Oui.
Il vous déstabilise.
Oui. En fait, il y a vraiment le sujet aussi. Je pense que il y a le test aussi de soumission, hein, je pense clairement, de savoir est-ce qu'elle fait ou pas.
Et jusqu'où vous pouvez aller.
Exactement. Ah ouais, donc je sais pas, peut-être que ce jour-là particulièrement, il y a peut-être aucun risque. Mais il faut juste se dire que déjà, en partant de là, moi j'avais une certaine honte et une culpabilité de me dire, déjà, je suis là-bas, on m'a en plus offert un billet d'avion, on m'a tendu $120. Déjà, juste pour ça, je me sentais presque un peu redevable. Et il faut savoir quelque chose aussi, c'est que quand on est dans ce genre de système, rapidement, voilà, on essaye de nous partager des choses. Puis alors nous, quand on est de nature très bienveillante, on a un peu notre filtre de se dire les gens sont gentils, on peut leur faire confiance.
Non, les gens sont pas gentils là.
Ouais, mais pour le coup, faut juste imaginer que les victimes qui peuvent arriver dans ce genre d'histoire, elles ont ce filtre-là de se dire voilà, moi, je sens pas le loup chez les gens, donc j'y vais et je fais confiance. Et malheureusement, le moment, le franchissement de cette petite cette étape qui fait que là, ça devient clair. Moi, je l'ai vu parce que j'ai eu d'autres expériences malheureusement où derrière, il y avait effectivement des hommes qui ont essayé de soudoyer. J'ai même vécu des agressions, je pense que comme la majorité des femmes. Et donc, je savais qu'il y avait des limites qui commençaient à se franchir.
Donc,
et que
c'était
pas un cadre normal.
C'est votre hyper-vigilance qui vous a sauvé et ensuite, vous avez réussi à vous extirper.
C'est ça.
Laurent.
Mais Malik, il y a dans le dossier Brune, le témoignage d'une jeune femme qui se prénomme, alors c'est pas son vrai prénom, Malika, c'est elle a vécu exactement ce que vous décrivez au début. Ouais. En revanche, elle n'a pas eu votre chance, elle ne s'est pas sortie de là.
Ouais.
Et alors, vous mesurez à la lecture de ces 32 pages de ce long procès-verbal de 2022, qui est glaçant, ce qui lui est arrivé ensuite, parce qu'elle est comme vous, recrutée par Daniel Ciad sur un pont parisien alors qu'elle est en train de faire une opération commerciale de distribution de flacons de parfums. Et puis elle va se retrouver chez Epstein, à Paris. Elle va devenir son esclave sexuelle, c'est son expression. Elle est dans une prison de luxe, c'est aussi son expression. Il va la bouger à New York, sur son île, etc.
Il va en faire sa créature.
Il va en faire sa créature 2 à 3 fois par jour, dit-elle, quand il était à Paris. C'est vrai que quand on lit ce témoignage, à la fois c'est sordide, bouleversant, elle est jamais seule. Il y a toujours à New York ou à Paris, un harem de 4 ou 5 jeunes femmes, toutes jeunes. Elle avait 23 ans, elle, en 2013, quand ça lui arrive. Elle en paraît 16, dit-elle.
Comme vous.
Alors c'est vrai c'est effrayant de voir l'absence de curiosité face à un témoignage pareil en 2022, et de la justice française qui en était saisie quand même, et de la police judiciaire française dont c'était le boulot qui l'interroge, d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres cas, de rechercher autour de ça. Alors elle n'est pas mineure, certes, mais le policier lui demande, il dit « mais vous n'avez pas pu partir ? Vous n'avez pas voulu partir ?» Elle dit, elle décrit, mais alors l'emprise, il faudrait mettre ça dans les manuels de police, elle décrit l'emprise, la peur, Epstein qui lui dit « celle qui a voulu partir, on l'a retrouvée suicidée quelques temps plus tard ». C'est effrayant. Et c'est effrayant, maître, que devant un témoignage pareil, la justice française se soit arrêtée.
Ce qui est bouleversant dans le témoignage de Juliette et sidérant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles l'acharnement qu'il y a eu à laisser Jean-Luc Brunel, qui avait 74 ans, en détention provisoire, alors qu'il avait déjà fait 2 tentatives de suicide, et qu'aujourd'hui, on aurait eu un procès, et je pense que les plaignantes auraient été heureuses de ce procès, parce que c'est une faillite de la justice dans son ensemble, lorsque un homme de 74 ans finit par se pendre en prison. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi n'a-t-on pas, à ce moment-là, au moment où il n'était plus, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé chercher les autres responsabilités?
À votre avis?
Alors, moi, je suis pas d'un naturel complotiste. Je pense que cette affaire, la justice n'avait pas les moyens de la traiter. Je pense
c'est
que
c'est pas qu'une affaire de moyens.
En 2022,
je vais vous dire. Enfin, je vais vous donner un exemple. On a fait des demandes d'actes d'investigation par dizaines.
Lesquelles, par exemple? Dites-moi.
On a demandé des auditions. On parle beaucoup de Madame Maxwell. On a demandé à ce que Madame Maxwell puisse être entendue. On a demandé à ce qu'un certain nombre de témoins qui sont cités puissent être entendus. On a demandé à ce que les fameux fichiers dont on parle puissent être importés dans la procédure française. La juge était dans la situation, elle me disait, maître, je suis désolé, je ne peux pas exécuter ces demandes parce que depuis 4 mois, j'ai pas de greffe. Parce que vous comprenez, c'est très compliqué d'un point de vue administratif de gérer vos demandes, parce que aujourd'hui, je suis obligé de faire tout avec mes petites mains. On en est là, madame, dans un dossier comme celui-ci, alors que mon client avait déjà fait 2 tentatives de suicide et était en détention. Donc, il y a quelque chose, et je comprends que ce soit ahurissant, d'anormal, et là, je pense qu'on peut tous se rejoindre, avocats d'association, avocats de mise en cause, journalistes, etc. C'est un sujet de citoyenneté.
Donc, c'est une faillite, ce que vous dites, c'est que c'est une faillite.
Mais c'est
de la
un désastre judiciaire absolu. Et nous avons saisi à l'époque le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, d'une demande qui était une demande de saisine de l'Inspection Générale de la Justice pour qu'on fasse la lumière sur ces dysfonctionnements.
Et qu'est-ce que ça a donné ?
Ça n'a donné absolument rien, puisqu'on n'a jamais eu même d'accusé de réception. Vous voyez, on a eu un accusé de réception, on n'a même pas eu un retour. Donc, je pense qu'il faut quand même que chacun fasse. Je me réjouis qu'aujourd'hui, le parquet réouvre les dossiers et souhaite faire la lumière, mais il faut aussi que le parquet fasse son examen de conscience. Parce que, comme le disait Laurent Valdier, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas eu de suite à ce que nous avions demandé, c'est-à-dire une enquête proactive à la lumière des enjeux. Et donc, cette série de dysfonctionnements, elle doit amener à une enquête pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que dans d'autres affaires, les mêmes causes puissent produire les mêmes effets.
Parce que les choses soient claires, qu'elles sont fiables. Les policiers, ils ont enquêté, ils ont quand même auditionné, notamment Juliette qui a été reçue à l'office à ce moment-là. Donc le travail, il a été fait, mais qu'est-ce qui, à un moment, oui, va dire on arrête?
Je ne sais pas en l'occurrence, parce que je ne connais pas le dossier. Ce que je sais, c'est que quand il y a une affaire qui vise un certain nombre de faits, si on découvre des faits distincts, il faut demander soit l'élargissement de la saisine du juge, c'est la juge qui la demande au procureur qu'il accepte ou pas, soit l'ouverture d'un dossier distinct, qu'on appelle une enquête incidente. Voilà. Manifestement, ça n'a pas été fait dans ce cas-là, notamment sur Siad, dont tout le monde parle aujourd'hui, qui semble avoir des éléments à charge. Donc, j'espère que ça va être fait maintenant et qu'on va pouvoir progresser. Là, je peux vous donner la certitude de la disponibilité de la police judiciaire pour enquêter, bien ça sûr. C'est sûr.
Et bien comment
sûr.
Ils exploitent, parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils sont allés chez Epstein à Paris, au 22 avenue Foch, dans ce 800 mètres carrés, il y a une grande perquisition, ils fouillent l'appartement et ils saisissent des ordinateurs, des clés USB, tout un tas de matériel informatique.
Un CD-ROM
aussi. Un CD-ROM. Qu'est-ce que ça devient ?
C'est l'illustration de ce que vous dites, c'est-à-dire que sur des milliers de mails qui sont saisis, on va exploiter les 50 qui concernent Jean-Luc Brunel. C'est-à-dire qu'on va faire abstraction du reste et on va se concentrer exclusivement sur ce qui intéresse Jean-Luc Brunel. En fait, l'affaire Epstein s'est transformée en affaire Brunel.
Et ça a fait, à vous écouter, oui, ça a fait écran de fumée, si je puis dire. C'est-à-dire que ça a gommé tout le reste.
Mais c'est factuel. Ouais. Et c'est ça qu'on s'est battu. Et je vous assure que moi, j'ai pas vocation à faire pleurer. Et a fortiori, lorsqu'on entend votre témoignage, madame, je pense qu'il faut, beaucoup d'humilité sur les responsabilités des uns et des autres. Mais sincèrement, imaginez, qu'est-ce qui se serait passé si jamais ces fichiers n'avaient pas été dévoilés. Mais monsieur Siad, et encore une fois, je veux absolument pas jeter la pierre, il est présumé innocent, peut-être que il sera en mesure.
Entendu rapidement.
Voilà. Mais ça signifie quoi ? Ça veut dire que ce dossier serait resté lettre morte. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que au fond, les témoignages qui sont sortis ces derniers jours, en réalité, n'auraient eu aucune suite. C'est quand même assez effrayant.
Mais en plus, ce que vous dites, c'est que si c'est une affaire de moyens qui aujourd'hui explique l'absence de curiosité de la justice il y a quelques années, probablement qu'on n'aurait jamais fait la lumière, n'eût été de la publication récente de ces documents aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il aura fallu un aiguillon venu de l'extérieur pour que la justice se dise, tiens, cette fois-ci, il faudra déployer les moyens pour s'intéresser à toutes sortes de pistes qui étaient à notre portée. Non, mais... Parce que vous dites, dans le lot des mails, il y en a 50 qui sont retenus. Donc, apparemment, autour, il y avait peut-être un faisceau d'indices, pour reprendre une expression populaire ici aujourd'hui, qui n'ont intéressé personne.
Non, mais si vous voulez, je veux aussi... Les services d'enquête, les magistrats font un métier, vous le savez, extrêmement difficile. Moi, j'ai pas vocation à stigmatiser ou à dire que il y a de la passivité, etc.
Mais
ce que je veux dire, c'est que les dysfonctionnements, lorsque les accusations sont aussi lourdes et lorsque les enjeux sont aussi forts et lorsque, en 2022, on retrouve quelqu'un pendu dans sa cellule, je pense que essayer de comprendre comment on a pu en arriver là me paraît la moindre des choses. Et a fortiori, lorsqu'aujourd'hui on se rend compte que on aurait dû peut-être passer moins de temps sur le sujet Brunel et davantage sur d'autres sujets.
Mais ce qu'on découvre, c'est qu'en réalité, avec les files, Epstein, il a des maisons aux États-Unis, il en a une en France.
Oui.
Il n'en a pas 50, hein, des maisons dans le monde.
Oui. C'est hors des États-Unis.
Hors des États-Unis, il a cet appartement d'avenue Foch. C'est une espèce de hub, comme disent les compagnies aériennes. Il n'a pas de maison en Norvège, en Angleterre, etc. Il est souvent à Paris, 10 jours par mois à peu près. Hein. Il est très souvent là. C'est vrai que c'est un carrefour dans son trafic. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les témoignages recueillis par la police dans l'affaire Brunel. Toutes ces filles de l'Est qui va chercher Siad, parce que Siad...
Elle transite.
Siad, son boulot, c'est d'aller dans les pays de l'Est faire venir des filles en France.
D'en récupérer sur les Champs-Élysées aussi,
États-Unis. La justice française n'a pas pris... Maître Gisporti, je vous défendais Brunel, on vous entend. Mais la justice française n'a pas pris la mesure de la place tournante qu'était Paris dans ce trafic de prostitution, de mineurs
au-delà Jean-Luc Brunel,
et d'être humain.
Puisque
c'est
l'objet,
ça.
Il n'est plus aujourd'hui de faire le procès de Jean-Luc Brunel qui n'est plus de ce monde. Au-delà de ça, j'interroge juste un fait qui est que il n'a jamais été mis en cause pour avoir rabattu des femmes, ce qui signifie
Brunel.
Pour la justice française,
je parle de Brunel.
Ce qui signifie que pour la justice française, de ce point de vue-là, il n'y avait aucune charge et que donc, si Epstein était dans la situation où on lui rabattait des femmes, il y avait nécessairement d'autres personnes. Donc, pourquoi ne pas aller chercher ces personnes? Pourquoi se focaliser sur ce sujet alors que l'on sait qu'il y a des complicités et qu'on ne va pas les chercher? Pourquoi? Parce que je pense que, et encore une fois, ça n'est pas qu'un problème de moyens, mais c'est aussi un sujet très compliqué à instruire parce que les enjeux sont compliqués. Il y avait une commission rogatoire internationale qui aurait dû être exécutée, il y aurait dû avoir un certain nombre de relances qui n'ont pas été faites, etc.
Alors, par exemple, il y a une entraide adressée au FBI. On a un courrier dans les files de Rémy Yates, à l'époque procureur de Paris, qui demande à la présidente de la Cour d'appel de Paris, en copie, et qui demande une entraide au FBI. Qu'est-ce que ça a donné, ce retour FBI? Est-ce qu'on le sait?
Vous voyez, ça fait partie des nombreux dysfonctionnements. Voilà. Nous, depuis le point de départ, on dit on doit avoir accès aux éléments de la procédure américaine. Pourquoi? Parce que c'est les éléments qui étaient soi-disant les plus incriminants. On le demande une fois, deux fois, trois fois. On se rend compte que les éléments de la procédure américaine sont produits après le suicide de Jean-Luc Brunel, tandis qu'ils sont dans les sur le bureau du Parquet de Paris depuis 14 mois. Pourquoi? Parce que ça a été orienté à un mauvais service. Parce qu'en réalité, il y a eu un problème de circuit administratif et que pendant 14 mois, ces éléments dont on pouvait considérer qu'ils étaient assez essentiels ne se sont pas orientés vers le bon service. Je pense là encore que c'est un dysfonctionnement qui mérite qu'on se pose deux, trois questions.
Sacré circuit, 14 mois.
Oui.
Maître Buguet, c'est vous qui avez alerté en 2019 au départ. Est-ce que vous partagez cette analyse de l'aveuglement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un écran, un nom, Brunel, qui avait cristallisé toutes les attentions des enquêteurs, des
magistrats.
Totalement,
totalement. C'est-à-dire que dès qu'on a, notre présidente a eu l'information que Epstein était en France avant d'être interpellé sur le sol américain, elle est interpellée donc par une amie américaine qui lui dit « Attention, on a des éléments qui laissent à penser que M. Epstein avait un réseau en France. » Elle alerte la justice. Il se passe plusieurs semaines de la même manière avant qu'on ait une ouverture d'enquête miroir, avant même que M. Epstein décède. On l'a enfin, et on regarde ce que dit mon confrère, hein, on voit bien qu'au départ, on ouvre large pour essayer de trouver des éléments qui viendraient rattacher à un trafic en France. Et dès qu'on a, entre guillemets, une tête, c'est-à-dire M. Brunel, on ferme tout. Donc c'est vrai qu'on se pose vraiment la question, surtout quand on entend le témoignage de Juliette, où on voit bien qu'il y a un mode opératoire et on n'a pas du tout investigué sur ce mode opératoire qui laisse toujours à penser quand on a comme ça quelque chose de systémique, qu'on a un système qui n'a pas du tout été mis à jour. Donc ça, c'est vrai que ça pose vraiment question, on se demande pourquoi.
Alors il y a une intervention du président de la République qu'on va réécouter à l'instant, qui est assez mal vieillie, qui date d'il y a quelques jours, et depuis, évidemment, les choses ont bougé, notamment grâce au parquet de Paris. Écoutez.
C'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique.
Il y a des personnalités françaises aussi.
Oui, ils sont citées. Il y a des personnalités françaises qui sont citées. Et donc la justice fera son travail, mais je pense qu'elle concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Et donc il faut que la justice là-bas fasse son travail, c'est tout.
C'est à la justice américaine de faire son travail, dit le président de la République, Stéphane Bureau.
Ça en effet très mal vieilli, parce que c'est la justice du monde qui est aujourd'hui interpellée par l'affaire Epstein, et pour la France certainement aussi.
Et donc ça bouge.
Évidemment, mais je reviens à ce que disait Laurent l'instant, le seul point d'ancrage hors des États-Unis de Jeffrey Epstein, quel que soit le réseau, quel que soit le système, on peut soupçonner beaucoup de choses, il reste maintenant à faire la démonstration, mais c'est Paris. Donc ça interpelle.
Avec un autre loupé, Pauline, hein, puisqu'on parle de loupé, qui est celui de ce diplomate français à l'ONU, rapatrié après une enquête du FBI. Christian Flesch était à l'époque à la PJ, en poste à la PJ.
On y revient. On va revenir sur ce cas épineux du Quai d'Orsay, le cas de Frédéric Hédon, expliqué par Pierre-Louis Bousset. Écoutez.
C'est un développement de l'affaire Epstein dont le Quai d'Orsay aurait préféré se passer. Le nom de Fabrice Hédon, diplomate français, est cité près de 200 fois dans les dossiers liés aux financiers décédés en 2019. Inacceptable pour le ministre des Affaires étrangères qui a annoncé saisir la justice.
Je diligente par ailleurs une enquête administrative pour contribuer au travail de la justice et lance une procédure disciplinaire.
C'est en 2010 que démarrent les échanges réguliers entre Fabrice Hédon et Jeffrey Epstein. Le diplomate, détaché par la France aux Nations Unies, fait notamment parvenir des documents et des rapports de l'ONU par mail aux milliardaires. Fabrice Hédon est aussi dans le viseur des autorités américaines pour des motifs bien éloignés des affaires diplomatiques.
On sait, selon Mediapart et Radio France, qu'en 2013, le FBI avait alerté l'ONU en disant « Écoutez, on a parmi, dans notre enquête sur une détention de fichiers pédopornographiques, le nom d'un diplomate français. »
Fabrice Hédon, de son côté, conteste les soupçons qui le visent, y compris les accusations de consultation de contenu pédopornographique.
Le FBI a déjà enquêté et il n'a jamais été poursuivi. Et les investigations menées en France sont arrivées à la même conclusion.
Le diplomate a été suspendu de la fonction qu'il occupait au sein du groupe Engie. À ce stade, aucun lien n'a été établi entre lui et les crimes sexuels de Jeffrey Epstein.
Alors, difficile de croire, Christian Flesch, que le Quai d'Orsay ne pouvait pas savoir. Et c'est la raison pour laquelle le ministre déclenche aujourd'hui un article 40.
Alors, d'abord, moi j'étais directeur de la police judiciaire de Paris à cette époque, j'en ai pas entendu parler, mais ceci dit, ça aurait pu ne pas arriver jusqu'à mes oreilles.
Ce genre de cas, ça remonte.
Ce qui est sûr, c'est que je comprends un peu ce qui a pu se passer. Il est donc diplomate, il est au français, mais aux Nations Unies.
C'est vrai.
Donc, il bénéficie aussi d'une immunité. Donc, si la justice américaine trouve une infraction le concernant, il peut y avoir un sujet d'immunité. Ce que l'ambassadeur, manifestement, auprès des Nations Unies a compris, puisqu'il a décidé de le rapatrier directement en France. Oui. Pas tout à fait directement, puisqu'il a trouvé plus prudent de passer par le Canada d'abord, avant de rentrer aux États-Unis. Avant de rentrer en France, pardon. Mm-hmm. Ensuite, la gestion des ressources humaines du Quai d'Orsay avait toute la capacité de faire un dépôt de plainte en France ou de signaler les faits comme ils viennent de le faire seulement maintenant, et d'ailleurs en qualifiant pas les faits, il y a un deuxième sujet le concernant, et de demander à ce qu'il y ait une enquête en France pour consultation, détention éventuelle.
On est d'accord que ça n'a pas été fait à l'époque en 2013.
Ça n'a, semble-t-il, pas été fait. Il y a un deuxième point aussi, c'est qu'il a, semble-t-il, au travers de ses mails, donné communication d'un certain nombre d'éléments internes à la diplomatie française, dont on peut aussi se poser la question de la légalité.
Ça, Stéphane Bureau, c'est gravissime, en fait. Ça veut dire qu'il y a de toute façon, à chaque fois, des contreparties.
C'est évidemment ce qu'on doit soupçonner. Ce n'est pas gratuit. Et il a plusieurs rôles auprès de M. Epstein, y compris le renseigner sur la pointure des chaussures qui seront achetées pour remercier des amis. Donc, c'est tout un système qui est mis en place avec, on peut le soupçonner, des renvois d'ascenseurs. Et puis, ce détour par le Canada...
Oui, qu'est-ce que ça dit, cette exfiltration par le Canada?
Que ce n'est pas anodin. On sait aujourd'hui, parce que M. Strauss-Kahn a été arrêté, je pense, alors qu'il montait à bord de l'avion, que la justice américaine, jusqu'aux derniers instants... peut aller cueillir ceux qui l'intéressent.
Il a été arrêté aussi parce que la justice américaine avait levé l'immunité.
Tout à fait.
Très rapidement.
Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Il y avait nécessité de cette étape. Mais donc, le faire transiter par le Canada, c'était peut-être s'assurer que les choses soient plus fluides. De New York à la frontière, c'est en voiture 4h30, 5h d'auto, c'est très facilement ensuite passer cette frontière, particulièrement, j'imagine, pour un diplomate français et du Canada, sans souci partir, puisqu'il n'y avait probablement aucune enquête, aucune raison pour que les autorités canadiennes soient sur l'affaire. Donc, si on le fait, je ne peux pas imaginer que c'était le système le plus simple. Il y a des vols New York-Paris, 3, sinon 10 par jour, et si on a choisi de ne pas faire le chemin le plus court et le plus rapide, c'est qu'il y avait un souci. En fait, c'est évidemment mon intuition. Oui, oui. Et je rappelle, comme je l'ai fait plusieurs fois, que cette histoire a déjà été racontée sans qu'il ne soit nommé. Vincent Jouvert, dans un livre consacré aux affaires sombres du Quai d'Orsay, avait raconté cette histoire.
Donc ça, Laurent, c'est le troisième volet dans le troisième tiroir qui a été ouvert par le parquet de Paris hier soir.
Oui, mais d'un autre côté, on voit bien que tout est lié, Pauline. Donc, il a besoin, Epstein, d'avoir des contacts dans les ministères, dans les quais d'Orsay, au Quai d'Orsay à Paris, avec les Norvégiens, parce qu'il a besoin de visas aussi pour les jeunes femmes qui viennent de Russie, qui transitent souvent par Paris. Et on le voit bien dans les files, il est tout le temps en train de demander des visas. Il est tout le temps en train de demander des facilités de passage. Tout est lié. Et c'est pour ça que le travail du parquet est de prendre un peu de la hauteur et puis d'essayer d'examiner tout ça sous cet angle-là, sous un angle on parlait tout à l'heure de trafic d'êtres humains, c'est quand même ce qui risque le Daniel Ciad s'il était accroché par la police française ou la justice française aujourd'hui. C'est-à-dire c'est de voir que chaque petit mail en tant que tel, c'est pas grand-chose. On se dit, c'est la somme.
Les petits cailloux.
Et on parlait du modus operandi dans le témoignage de, comment s'appelle, le pseudo qui était donné à cette
Malika.
Femme.
Malika.
On constate que dans une autre affaire qui a nommé Jeffrey Epstein, j'en ai parlé en début d'émission, alors qu'il conseille un milliardaire américain qui a une relation houleuse avec sa maîtresse russe.
Oui.
C'est exactement le même genre de menaces voilées qui sont faites. Tu sais, s'il fallait qu'on prévienne le FSB, la police secrète russe, peut-être qu'il pourrait trouver de bonnes raisons de s'intéresser à toi. Donc,
emprise, menace, préparation psychologique.
Exactement, on est dans de l'emprise à la menace, toujours voilée, mais un rappel de ce qui a autorité et qu'on peut, si ça ne se conclut pas bien, trouver des scénarios beaucoup plus fâcheux.
Julia, j'aimerais vous donner la parole. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, je vais rebondir par rapport au pouvoir potentiel qu'il pouvait avoir, puisque ma mère avait contacté à l'époque un consulat de France aux États-Unis. Et il l'avait alerté en disant qu'il se passait des choses en ce moment-là avec des mannequins françaises et qu'il fallait donc faire attention à moi. Voilà, donc ça l'a aussi encore plus alerté, mais sans trop savoir encore une fois ce qu'il y avait derrière tout ça.
Donc il y avait un signal d'alerte supplémentaire qui n'a pas été pris en compte à ce moment-là.
Évidemment, oui.
Christian Flavier.
Je trouve que la situation actuelle est très intéressante. Il y a une banque de données, ces fichiers, c'est une vraie banque de données. Le parquet de Paris a la bonne organisation en ciblant des magistrats pour s'en occuper précisément, en mettant un service de police judiciaire aussi particulier pour traiter ça. Mmh. Et ensuite, il va y avoir un certain nombre de plaintes. On a déjà des plaintes qui sont déposées, il y en aura peut-être d'autres. Et après, au travers de l'examen que feront les gens qui ont la connaissance complète, des éléments de plainte, ils pourront donner de ces fichiers des points particuliers qui assoiront la procédure et qui donneront du crédit aux déclarations.
C'est quoi les prochaines étapes ?
Alors, les prochaines étapes, c'est effectivement l'ouverture de l'enquête. Alors, on va voir, pour l'instant, elle est confiée à un procureur. On verra si, le cas échéant, à terme, elle est confiée à un juge d'instruction. Mais moi, je me réjouis effectivement que la justice soit saisie. Pourquoi ? Parce que là, on est dans une situation où il faut... raison gardée également, parce que entre l'impunité et la suspicion généralisée, il faut une voie médiane. Mmh. Parce que l'immense difficulté, et c'est pour ça que la presse joue un rôle nécessaire, c'est que la manière dont ces fichiers ont été mis en ligne avec un tri dont on peut se poser les questions de la manière dont elle a été faite, crée aussi une espèce de suspicion qui fait que toute personne qui aurait croisé une fois Epstein dans sa vie serait un pédocriminel en puissance. Oui. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement bien que la justice fasse le tri.
L'antidote au complotisme, c'est la justice.
Et la transparence. Merci à tous d'avoir éclairé cette édition spéciale consacrée au dossier Epstein. Merci de vos analyses, vos expertises, vos témoignages. Et pour prolonger notre réflexion et cette déflagration planétaire, depuis 15 jours et cette publication, le monde vacille et découvre l'ampleur de ce réseau politique, diplomate, homme d'affaires. Comment Jeffrey Epstein, ce prédateur sexuel, a tissé sa toile, sa fortune, son réseau. Epstein, les dernières révélations du scandale mondial. C'est un document signé Raphaël Redon, Stéphanie Zanatti, Maëlle Janton, Sophie Herbet et Emmanuela Braun. Merci à tous.